On crée une ville qui en soi est relativement éparse, hein, parce que la présence de la voiture de façon massive fait qu'on a pratiquement 50% de l'espace urbanisé en France qui est dédié à la voiture, donc c'est soit des routes, soit du parking. Et donc on voit bien que on vient espacer les bâtiments. Les bâtiments, c'est 18% des surfaces urbanisées. Donc ce qui nous semble être l'usage principal de la ville, finalement, c'est qu'un usage marginal.
Bienvenue dans le podcast « Activer l'économie circulaire ».
Je suis Brieux Saffré.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design Circulable. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Bonjour à tous. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va parler d'urbanisme et plus exactement d'urbanisme circulaire puisque tu viens de publier un manifeste appelé « Pour un urbanisme circulaire ». Donc évidemment, ça m'intéresse beaucoup et ce qui va nous amener à évoquer des sujets comme la ville, ses habitants, ses usages, les espaces naturels, les espaces agricoles, la résilience, notamment pas mal les transports et l'étalement urbain. Et d'ailleurs, je trouve que, enfin, je me suis permis de lire un petit peu ton livre et il y a deux chiffres que j'aimerais vraiment donner en introduction pour qu'on ait un vrai ordre d'idée de la problématique. C'est déjà, tu profites du livre pour corriger quelque chose qui est quasiment devenu un dicton, c'est que l'équivalent d'un département français est artificialisé tous les 7 ans. Enfin, on l'entend beaucoup.
Ouais, oui, tout à fait.
Et en fait, on se rend compte qu'on est plutôt à un département sur les 20 dernières années, ou même tous les 20 ans. Ce qui fait, selon toi, 30 000 hectares par an, soit 5 terrains de foot toutes les heures de tous les jours de la semaine, de jour comme de nuit. Enfin, je trouve que c'est délirant, 5 terrains de foot chaque heure. Et puis surtout, deuxième chiffre que je trouverais assez dingue, c'est la conquête des villes européennes sur les campagnes correspond à l'équivalent de la taille de Londres toutes les 7 semaines. Enfin, donc ça veut dire qu'on gagne une ville comme Londres en Europe toutes les 7 semaines.
Oui, alors les chiffres ils peuvent varier, etc., etc. Ce que ça veut dire, c'est deux choses. C'est déjà que en fait on en parle depuis de l'étalement urbain avec ce fameux thème là de la consommation d'un département tous les 7 ans, 10 ans selon les sources. Hein. En fait, ça fait 20 ans qu'on parle de cette question-là, mais on n'avait pas les chiffres. Alors comment est-ce qu'on peut imaginer traiter un problème sans pouvoir le mesurer? Déjà, on invente une unité qui est un peu compliquée. Un département, c'est quoi? C'est pas une unité de mesure à ma connaissance. Mais on voit bien qu'on a un discours politique d'un côté, de prise de conscience, etc., etc. En fait, qui est faux structurellement.
Parce que le constat n'est pas bien posé.
Non, la question n'est pas posée, les chiffres sont pas bons, etc. Et pour autant, c'est pas parce que c'est qu'un département tous les 20 ans que c'est rien. En fait, c'est énorme. C'est absolument énorme. Et voilà, quand on fait la transition, c'est 20 Notre-Dame-des-Landes tous les ans ou 375 Europa City. Et Dieu sait qu'on a parlé d'Europa City avant l'arrêt du projet. Et on parle très peu de l'étalement urbain. En fait, c'est un phénomène qui est partout, donc qui est très diffus. C'est des petits bouts de consommation de foncier un petit peu partout. Quand on fait la somme de tout ça, oui, ça a un impact qui est très significatif.
Alors, on va revenir sur tous ces sujets, mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous présenter un petit peu ton parcours?
Alors, moi, j'ai un parcours peut-être pas complexe ou voilà, donc je vais sauter des étapes et je vais simplifier. Globalement, j'ai plusieurs formations et plutôt des formations continues. Enfin, c'est-à-dire, je retourne souvent à l'école. Donc, j'ai fait Sciences Po Aix, j'ai fait un DEA d'anthropologie, un master d'urbanisme et un MBA, donc des études de management plus récemment. Voilà, si j'ai un background universitaire ou scolaire, j'ai envie de dire, il est pluridisciplinaire. C'est tout ce qui m'intéresse quelque part. Et après mon parcours, j'ai eu, disons, différents métiers. Je suis urbaniste depuis une quinzaine d'années, après d'autres expériences professionnelles. Et j'ai exercé dans différents types de structures, des petits bureaux d'études, des collectivités, des aménageurs, des gros bureaux d'études pour le coup. Et surtout, donc j'ai créé ma structure Dixit.net il y a 5 ans maintenant, bientôt 5 ans, pas tout à fait 5 ans plus exactement, qui est une structure très légère, hein, on est aujourd'hui 2. Par contre, avec un petit réseau autour qui fonctionne bien, sur le souhait de ne travailler que sur des questions compliquées, qui est la création de la ville sur la ville. C'est comment on réinvente des espaces urbains, des questions compliquées, donc ça veut dire intéressant. Et puis évidemment, il y a un parti pris environnemental derrière, qui était de dire que, parler de l'étalement urbain, de la lutte contre l'étalement urbain, avant tout, ça nécessite de créer des alternatives à ça et de répondre aux besoins de développement urbain qui existent, qui sont importants. En créant les alternatives. Donc aujourd'hui, mon travail, c'est de travailler sur des projets de transformation de sites, d'espace urbain, une usine qui s'arrête, un hôpital qui va déménager, etc., pour des acteurs de tout type, public, privé, petit, gros. Et puis, c'est d'accompagner ces acteurs-là sur le changement de leurs pratiques.
Ok, cool. Et justement, qu'est-ce qui... Donc là, aujourd'hui, on se rend compte parce que tu as écrit ce fameux manifeste. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu en es venu à l'écrire ?
Alors, question intéressante. Comment j'en suis venu à prendre la plume ? Parce que pour moi, c'est pas du tout un... c'était pas prévu. Si j'avais voulu écrire un livre en termes d'envie, j'aurais écrit un roman. J'en suis sans doute incapable, mais voilà. S'il y a,
Des petits extraits un peu romancés quand même.
Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais c'est même pas par frustration, c'est par nécessité. C'est que je pense qu'on peut pas parler qu'au cerveau. Faut aussi parler au cœur. Et on a beaucoup travaillé derrière là-dessus sur cheminement des individus pour aller de la prise de conscience jusqu'à l'action. Et quand je parle des individus, c'est des professionnels, mais c'est des élus, des citoyens. C'est ce triptyque-là qui fait la ville aujourd'hui. Alors, j'en suis arrivé là parce qu'à un moment, se posait la question pour moi de passer à l'échelle. Aujourd'hui, je travaille sur des projets, sur des sites, et depuis quelques années, depuis la création de ma structure. Et donc finalement, projet par projet, je refais la ville sur elle-même. Sauf que avec mes petits bras, avec nos petits bras dans la structure, on n'en traite pas 50 hein, tous les ans.
J'aimerais ce que tu veux dire.
Donc il y avait deux solutions et j'ai vraiment étudié les deux. La première était de recruter. Tu posais beaucoup de questions. Hein, et la première des questions, alors au-delà de recruter qui, la première des questions pour moi, c'est une question personnelle. C'est-à-dire que j'allais me retrouver à faire de la gestion d'équipe, comme j'ai déjà pu le faire, du développement économique, hein, trouver des missions, trouver des projets, etc. Je l'ai déjà fait aussi, ça peut être passionnant, etc. Mais globalement, j'allais me retrouver à avoir une double casquette, la première de manager, donc devant un tableau Excel et avec des équipes, et la deuxième de commercial, mais donc loin des projets, loin des gens, etc. etc. Donc pas tellement envie de ça. Donc je me suis dit qu'il fallait, on s'est dit, c'était une réflexion que j'ai très largement ouverte, autour de moi, au sein de la boîte, mais autour de moi aussi, qu'un autre moyen, c'était de remonter encore dans la chaîne de valeur et d'accompagner finalement une bascule et de dire, si moi je peux pas évidemment refaire toute la ville tout seul, il faut que dans la chaîne de décision, tout le monde prenne conscience des enjeux, ces enjeux liés à l'étalement urbain, c'est-à-dire qu'on arrête d'en parler, mais que vraiment on mette les choses noir sur blanc quelque part. Qu'on arrête de raconter n'importe quoi aussi, notamment dans des moments cruciaux que sont les phases électorales. Et puis aussi qu'il fallait semer des graines. Et donc l'idée, c'est entre un bouquin, des conférences, de faire émerger des prises de conscience, de donner envie aussi, pas être que sur de la peur ou de la nécessité du tout. Et derrière, pour aller accompagner les différents acteurs qui font la ville aujourd'hui, promoteurs, aménageurs, collectivités, acteurs privés, etc., etc., à dire comment, hier je faisais la ville linéaire, on en parlera, globalement la ville neuve sur des terrains agricoles, je simplifie, mais c'est un peu ça, en tout cas c'est plus de 50% de la production de la ville aujourd'hui. à une ville qui est plus complexe, qui se réinvente en permanence sur elle-même. Hein. Donc, comment on accompagne les gens vers un changement de modèle. Donc, le bouquin n'est pas du tout une fin en soi, c'est plutôt le début de quelque chose que l'aboutissement d'un truc. C'était beaucoup d'efforts et aussi beaucoup de surprises et de témoignages d'envie et de soutien, voilà, qui font que un peu par hasard. Manifestement, ça tombe au bon moment. Je pense qu'on aurait écrit ça, j'aurais écrit ça il y a un an, ça aurait eu sans doute moins d'écho. Il y a une conjonction là de facteurs qui fait que voilà, c'est audible.
Tout à fait. Et justement, tu l'évoques dans ton livre, mais est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton constat, vu que tu dis qu'il est très mal posé,
ouais,
faisons
ouais.
en sorte de peut-être bien le poser.
Ouais, si tu veux, aujourd'hui, quand on parle de la ville. On peut faire plein de constats, on va dire d'un côté que l'immobilier est trop cher, de l'autre côté que il y a trop de bouchons, de l'autre côté qu'on n'arrive pas à passer en vélo, qu'on aimerait qu'il y ait plus de nature en ville, que on voudrait manger bio à tous les étages, vivre dans la proximité avec l'agriculteur et en même temps les agriculteurs mettent trop de produits dans les champs et en même temps on a des friches agricoles, etc., etc. Le problème, c'est que tout ça est traité par silo.
Tout à fait.
Donc, c'est toujours cette question de l'approche systémique, etc., etc. Ce que je dis, en fait, l'étalement urbain, c'est-à-dire cette consommation foncière, c'est finalement pas le problème. C'est un indicateur d'un problème qui, lui, est systémique, hein, qui fait que aujourd'hui, on a globalement arrêté de faire évoluer la ville, en général. Et par contre, on n'est que sur un ajout et de la croissance.
Juste petite précision, quand ouais. tu dis faire évoluer la ville, c'est en fait il y a un bâtiment qui est construit, mettons, et puis on va pas repenser ces de nouveaux usages, de nouvelles fonctions qui pourraient remplir.
Il y a plein de façons de faire évoluer la ville, hein, mais en tout cas c'est bien de se dire à un moment on est plus nombreux, on vit pas pareil, il y a des changements économiques, il y a des changements de besoins en termes d'habitat, des changements démographiques, un vieillissement de la population, etc. On a d'un côté des usages, et de l'autre côté un moyen d'y répondre, c'est la structure urbaine. C'est à la fois l'espace public et le bâti. Hein. Et finalement, à tout nouveau besoin, usage, on vient créer une nouvelle fonction, un nouvel espace bâti, et qui est plutôt en périphérie, parce que c'est plus simple. Parce que ça, on sait faire et on sait l'industrialiser. Alors que venir recoudre des choses, venir modifier un bâtiment, faire une réhabilitation lourde, un changement d'usage d'un bâtiment, c'est plus compliqué que tout raser et en refaire un neuf. Pourtant, là, je suis vraiment sur du micro. L'impact en termes de consommation de ressources, d'émissions de gaz à effet de serre, etc., est pas du tout le même. Et d'émissions de déchets, évidemment, sur la partie des constructions. Et pour revenir, revenons au système. C'est vraiment important. Moi, je pars de cette question de l'étalement urbain, une ville qui s'étend. Très bien, on est de plus en plus nombreux, donc c'est normal que la ville s'étende. On a une croissance de la population, un développement économique, etc. Il y a une logique à tout ça. Le problème, c'est que, en fait, globalement, et je reste que sur la France métropolitaine, la ville s'étend trois fois plus vite que la population. Donc on a une perte d'efficacité de la croissance de la population.
Tu arrives même à illustrer le fait que, par exemple, en Bourgogne, la population n'a pas forcément augmenté. Si
ouais, elle a globalement stagné. Ouais. Alors on peut même prendre. Oui, tout à fait. On peut prendre des exemples très marquants. Par exemple, si on prend les sols qui ont été consommés pour la construction de logements dédiés à l'habitat. En France, entre 2010 et 2015, on a un quart de ces sols-là. Qui ont été consommés dans des communes qui perdent des habitants.
Oui, c'est ça qui est délirant.
Donc on a une machine, c'est une machine qui tourne à vide en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a de bonnes raisons, etc. Mais moi je suis aussi un praticien, donc je regarde ça de haut, mais je regarde ça aussi d'en bas. Je suis confronté à ça. Et je l'ai fait d'ailleurs. J'y ai participé. Moi je suis un repenti. J'ai fait des zones d'activité en bord d'échangeurs sur des champs agricoles. Hein. Donc je sais ce que c'est. J'ai discuté avec les élus confrontés à ça, etc., etc. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Dans la plupart des cas, et pas toujours. Le problème, c'est que l'impact de tout ça, c'est une multiplication des déplacements automobiles, puisqu'on vient étendre les distances entre les usages, notamment l'emploi et le résidentiel, mais aussi les commerces, l'école, etc., etc. On étend les distances, on crée une ville qui en soi est relativement éparse, hein, parce que la présence de la voiture de façon massive fait qu'on a pratiquement 50% de l'espace urbanisé en France qui est dédié à la voiture, donc c'est soit des routes, soit du parking. Et donc on voit bien que on vient espacer les bâtiments. Les bâtiments, c'est 18% des surfaces urbanisées. Donc ce qui nous semble être l'usage principal de la ville, finalement, c'est qu'un usage marginal, en tout cas mineur. On a donc des impacts immédiats avec tout ça. Je parle pas de pollution de l'air, d'accidentologie, de stress, de temps passé, etc., etc. On a des impacts immédiats en termes de consommation de sol, parce que c'est de l'émission de CO2. On a du sol encapsulé hein, dans les sols, du CO2 encapsulé dans les sols agricoles, mais surtout les prairies et ou les forêts. Hein. Et puis on a besoin de ces sols agricoles.
Bien sûr.
On va en avoir de plus en plus besoin, et c'est une question de sécurité alimentaire. Donc là, on est aujourd'hui globalement de scier la branche sur laquelle on est assis. Hein, on a des surcoûts qui sont engendrés par tout ça, parce qu'évidemment, en diffusant l'habitat, les logements, les entreprises, les services urbains, que ce soit les réseaux ou le transport, par exemple, sont plus coûteux, hein, même s'ils sont pas plus coûteux facialement. Hein, le billet de bus est au même prix, mais il coûte beaucoup plus cher, en fait. Donc tout ça, on retrouve ça dans nos impôts. Et puis surtout, en tout cas, c'est pour moi un élément qui est vraiment important, c'est qu'on est en train d'intensifier, et c'est un phénomène qui s'est vraiment intensifié ces 10 dernières années, une vraie fragmentation sociale.
Ouais, ça, on le retrouve avec notamment les Gilets jaunes. Enfin, c'est une des...
Ouais, tout à fait.
Une des illustrations de ce phénomène.
D'un phénomène multiple, multifacette, etc., etc. Mais en tout cas, on a bien cette crise de la mobilité automobile à travers des gilets jaunes, une crise de la mobilité résidentielle aussi. Hein, c'est, je suis là et quelque part, là où je suis, je n'ai pas le choix, j'ai besoin de la voiture. Hein, donc, forcément, les taxes sur le gazole et les 80 km/h, ça remet peut-être pas complètement en cause une économie, mais en tout cas, ça vient toucher les fondamentaux de mon économie, l'économie de mon ménage. Sauf qu'il se trouve que moi, j'ai pas les moyens de me payer la proximité, et non pas parce que je suis pauvre, mais parce que j'ai un salaire normal. On a un salaire normal dans le ménage, hein, et on a envie, comme tout le monde, d'avoir un crédit sur le dos à 40 ans, hein, pas d'avoir une Rolex. Et on a des enfants, on a envie d'extérieur, etc. Est-ce que nous propose la ville aujourd'hui, que ce soit la métropole ou la ville rurale, c'est éventuellement inaccessible, inabordable en termes financiers, mais bien souvent inadapté en termes d'espace extérieur pour les enfants, en termes de taille des logements, etc., etc. Donc aujourd'hui, on a vraiment un mouvement d'éjection, notamment des familles du cœur des métropoles, mais qu'on va retrouver un petit peu partout.
Ouais, il y a un exemple avec Paris où déjà il y a une espèce de gentrification de la ville, et puis effectivement il y a de moins en moins d'enfants à Paris.
Alors Paris concentre beaucoup de choses, c'est-à-dire à la fois des mouvements spéculatifs financiers importants qui font qu'aujourd'hui, pour donner une matérialité à de l'argent qui tourne, l'argent peu cher en ce moment et qui tourne beaucoup, finalement quoi de mieux que l'immobilier, en tout cas dans les grandes métropoles mondiales dont Paris. Hein, donc on a notamment beaucoup d'investisseurs étrangers qui investissent dans la pierre, non pas pour que ce soit occupé, mais pour quelque part mettre l'argent à un endroit. Hein, on a un effet Airbnb hein, qui est important, qui est vraiment très significatif dans toutes les villes un peu touristiques, évidemment Paris. Ça a des effets sur les prix, donc une perte de population qui est très significative hein, pour Paris, Paris intramuros. Après, on a exactement les mêmes phénomènes sur des villes comme Toulouse. Hein, des agglos comme Toulouse, globalement, Toulouse n'accueille personne, n'accueille que des étudiants. Hein, aujourd'hui, la croissance de la population de la ville de Toulouse, c'est uniquement des étudiants. Et si on regarde le cheminement en fonction des tranches d'âge, on s'aperçoit que on a une perte des enfants petits et de leurs parents hein, qui vont pas dans la métropole de Toulouse, hein, dans l'unité métropole, l'aire administrative, mais beaucoup plus loin, dans des communes qui sont complètement dépendantes en termes de travail de la métropole toulousaine. Ça veut dire qu'à un moment, on peut plus se payer la proximité. Donc on va en périphérie dans des processus d'acquisition pour accéder au logement, avoir plus de place, etc., etc. Aussi plus de nature, hein, en tout cas d'idées de nature, et on va compenser ça par du trajet domicile-travail.
Et je t'arrête, mais ça me fait penser à mes vieux cours de géographie, ouais, où en fait, les villes américaines, on les présentait avec le Central Business District au milieu, ouais, et effectivement, des lotissements hyper éloignés, etc. Finalement, on a adopté un modèle américain, si je t'entends.
Alors, sur le modèle urbain, on n'est pas sur les mêmes étapes de développement, sur les mêmes phases historiques de développement. Donc, on a notamment des cœurs urbains qui sont différents, etc. Il y a eu des phénomènes de paupérisation des centres aux États-Unis à une période extrêmement massive. Il y a des bascules beaucoup plus violentes aux États-Unis. Après, sur les fondamentaux, l'étalement urbain, il est lié à quoi? Une offre de logement en périphérie, une fragmentation des usages, hein, cette segmentation des usages, notamment entre résidentiel et emploi, et puis aussi sur un mode de production de la ville qui est globalement l'initiative privée sur de la terre agricole à distance des zones d'emploi, avec des modes de production industrialisés et standardisés, le tout basé sur de l'endettement. Ça a été inventé après la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, étendu grâce au réseau routier qui s'est développé dans les années 50 aux États-Unis. Et c'est un modèle qui est issu, enfin, c'est un truc que je documente dans le bouquin, parce que l'histoire est importante, qui a été développé par un promoteur privé, mais qui s'appelait pas promoteur, puisqu'il a inventé lui-même le métier, c'est-à-dire une initiative privée de quelqu'un qui achète un terrain et qui va construire des maisons standardisées sur catalogue. Il se trouve qu'il avait fait l'armée, il avait fait la guerre, et il était dans le génie, donc il avait construit ces baraquements standardisés. Et c'est l'invention du suburb américain. Alors, dans sa forme spatiale, hein, donc les petites rues, les maisons toutes les mêmes, leurs petits jardins, etc., etc., qui est ni bien ni pas bien, c'est une forme spécifique, mais aussi dans tout son processus économique. Il n'y a pas de volonté politique publique, c'est un investissement, privé, et c'est fondé sur l'endettement qui est permis par quoi? Par les garanties offertes par l'État aux anciens combattants. Et donc c'est les nouvelles villes, c'est autour de New York qui sont multipliées. Les Hollywood Towns est réservé aux blancs, par ailleurs. Ce modèle, il s'étend dans les années 50-60 aux États-Unis avec ce grand plan lancé par Eisenhower d'infrastructures routières. Et bizarrement, on commence à développer les infrastructures autoroutières en France à toute fin des années 60, enfin même début des années 70. Et c'est là que démarre l'étalement urbain. Donc on a la voiture, mais la voiture ne fait pas tout. Il faut tout le système qui va avec. Il faut un carburant, il faut adapter la ville, mais aussi le territoire. Donc avoir tout ce maillage routier pour pouvoir prendre la distance. Ça veut dire une chose, ça veut dire que en fait on est sur un modèle de développement urbain qui n'a que 50 ans.
Oui, alors que ça nous semble être la norme.
Ça nous semble être la norme parce qu'il y a eu des sauts de génération en fait.
Oui, tout à fait.
C'est des phénomènes qui sont documentés par notamment par des chercheurs sur, enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est très intéressant. Le shifting baseline, c'est la question du changement de référentiel. C'est à partir du moment où, dans toute sa carrière, dans sa génération, on a toujours été sur le même référentiel, on considère que c'est de la normalité. Hein, et ça a été notamment documenté par rapport aux normes fixées par les scientifiques sur les quotas de pêche.
Oui.
Et en fait, c'est le shifting baseline, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle génération de scientifiques qui travaillent sur le sujet, ils considèrent comme étant la norme, et donc la normalité, le niveau de ressources halieutiques qu'ils ont connu en début de carrière. Et donc ils passent toute leur carrière à essayer de protéger ça, ce qui est logique. Mais c'est pour ça qu'il faut faire l'histoire, et se dire, finalement, c'est pas si vieux. Finalement, la ville adaptée à la voiture, au moment où on débat de la place du vélo, etc., de la place du piéton dans la ville, sortir un papier sur le blog prochainement là-dessus, qui est vraiment très intéressant. La première réglementation qui fait que, globalement, le piéton est obligé d'attendre pour traverser, qui est quand même la base aujourd'hui de ce qu'est la ville, c'est 1925. Ça a moins d'un siècle. Et je suis en train de parler de Los Angeles, hein, du temple de la voiture, etc., etc. Donc on est sur des choses qui sont finalement extrêmement récentes. Donc attention, voilà.
Surtout qu'on, enfin quand j'y repense, 50% des constructions urbaines sont donc dédiées aux routes, au parking, Mais surtout, donc, ces voitures-là, là, en moyenne, on estime qu'on les utilise que 4% du temps.
Ouais,
c'est
ça quand fait,
même
ouais.
délirant, ouais. Cet écart, en fait, entre l'utilité réelle et les conséquences.
Ben, ce que fait très bien une voiture, globalement, c'est rouler entre 5 et 900 km avec 4 personnes à bord, c'est-à-dire plutôt 500 kg de charge utile. Voilà, l'usage moyen de la voiture, c'est plutôt 5 km. Et c'est 1,2 personnes, 80 kg utiles. Même pas, enfin. Donc, je veux dire, on utilise aujourd'hui un outil. Alors, ça a évidemment un impact énergétique phénoménal, hein, que ce soit un moteur thermique ou un moteur électrique. Hein, voilà, transporter une tonne cinq sur ces vitesses-là, c'est-à-dire à 30-40 km/h en prenant toute cette place-là, ça n'a aucun sens. Donc aujourd'hui, on utilise la voiture pour ce qu'elle fait le moins bien, c'est-à-dire des courtes distances, des faibles charges et dans des tissus urbains extrêmement denses sur lesquels on manque de place. Forcément, on a des bouchons. Finalement, on prend la voiture quand on aurait besoin d'un vélo, c'est tout. Hein? Sauf que c'est l'outil à tout faire, l'outil pour tous les déplacements qui fait tout. Donc il faut qu'on aussi, c'est ce que je prône évidemment à la fin, au-delà de la sobriété foncière, évidemment, pour avoir une sobriété foncière, il faut rapprocher les fonctions et donc construire une ville qui permet aux gens de laisser leur voiture dans le garage. C'est pas de l'anti-voiture. Même je roule. La question, c'est comment est-ce qu'on roule en voiture que quand on en a besoin. Longue distance, forte charge. Voilà. C'est la ville qui laisse le choix, la ville de la proximité, ce qui veut dire beaucoup de choses en termes de dessin de l'espace public, de localisation de l'emploi versus le résidentiel, etc., etc.
Et justement, quelles sont les recommandations que tu proposes, que tu appliques dans ton métier, dans ta mission?
Alors moi je travaille sur un segment de ce que j'appelle l'urbanisme circulaire, hein, c'est vraiment des étapes assez particulières de changement d'usage de lieu, hein, ce qui fait que je vais intervenir voilà à des phases sur lesquelles on est souvent très en amont du design urbain. Pour autant, dans l'ouvrage, je travaille sur, je parle en tout cas de l'ensemble du champ et surtout je parle de ce que font les autres. Hein, et pour moi c'est important. C'est un bouquin qui est globalement dédié au moins à 50%, disons 50% de pédagogie et 50% à louer le travail des autres, les expérimentations des autres, et 0% des miennes. Peut-être pour revenir sur un peu les fondamentaux donc tu as bien compris, enfin ce que j'appelle l'urbanisme circulaire dans le bouquin, c'est une transposition du concept d'économie circulaire tel qu'on l'entend tous les deux, c'est-à-dire cette question de vision systémique. Et, enfin, c'est pas l'idée de la poubelle recyclable. On est bien d'accord là-dessus.
Okay.
Voilà, le fait qu'il y a.
Effectivement, il y a peut-être ces trois principes que tu peux nous redonner, qui effectivement sont un petit peu des principes du vivant que tu as réappliqués à ton métier.
Ah,
je te laisse les donner peut-être.
Alors déjà pour dire, aujourd'hui, on est sur un urbanisme linéaire. Je mets beaucoup de guillemets à tout ça parce que ça n'a pas prétention à la scientificité. Hein. Mais globalement, on est sur une consommation de foncier agricole, une consommation de foncier essentiellement agricole, 30 000 hectares par an. On a un usage et ensuite on crée de la friche. Et les friches sont nombreuses en France, friches délaissées, etc., etc.
C'est globalement même au sein de la ville. Même au sein du ville, il y a beaucoup de friches.
Ah oui, tout à fait. Sur la métropole lilloise, on a 1000 hectares qui sont recensés comme espaces de friches ou pas suffisamment utilisés ou délaissés, etc., etc. Différentes natures, loin d'être uniquement les grandes friches industrielles historiques, etc., hein, y compris des trucs très récents, ça correspond à la consommation foncière de la métropole lilloise, donc des 10 dernières années. Donc on a un stock non maîtrisé, qui est non valorisé, qui est vraiment important et qui est souvent inconnu.
Ah ouais.
Ce qui distingue la métropole lilloise des autres, c'est que elle a fait le recensement. C'est pas qu'elle en ait beaucoup, même si elle en a un nombre significatif, justement, ils sont plutôt vertueux dans ce travail-là de recyclage des friches, etc. Donc, urbanisme linéaire, globalement, c'est du foncier jetable, du foncier agricole qu'on vient consommer et mettre à la poubelle. L'urbanisme circulaire, c'est dire qu'on a un premier usage à ce foncier agricole, on a un processus d'urbanisation qui est parfois nécessaire, parce que plus de population, etc. Mais comment on fait pour utiliser au mieux le mètre carré de foncier agricole une fois qu'on l'a consommé pour faire de la ville. Et donc là, trois boucles. L'intensification des usages. Comment faire mieux avec ce qu'on a déjà, avec les bâtiments qu'on a déjà. La transformation de l'existant. Comment donner une deuxième vie à un bâtiment qui a perdu la première. Et puis le recyclage des espaces, c'est-à-dire globalement la valorisation de ces fonciers-là qui sont délaissés, qui sont mal utilisés ou qui sont en friche urbaine. Peut-être pour illustrer intensification des usages, on a un exemple. Enfin, je passe beaucoup de temps dans le bouquin à montrer des exemples parce que mon parti pris, c'est de dire que là, j'ai rien inventé. Ça existe déjà. Le problème, c'est que c'est que des prototypes.
Oui, ou c'est des entreprises naissantes. Par exemple, sur l'intensification des usages, je pense à une entreprise comme Zenpark, par exemple, qui fait en sorte d'optimiser les parkings de façon à ce que, mettons, un parking de supermarché serve la nuit pour les résidents aux alentours. Enfin, je pense que c'est beaucoup de bon sens à chaque fois, de toute façon.
Alors, c'est plus que... Alors, oui, il y a cette logique de bon sens. Donc, faut regarder les choses, j'ai envie de dire, à froid. Et commencer à regarder la ville un peu de haut et se dire tiens qu'est-ce que je peux faire sans construire. Or faire la ville, la plupart des métiers associés à la ville, ils sont liés à la construction. C'est-à-dire une chose qu'on sait bien faire, c'est investir. On sait moins gérer. Et un acteur comme Zenpark, mais d'autres aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent introduire finalement un nouvel acteur dans le système. Et c'est sans doute une des leçons à tirer, ou en tout cas une des premières généralisations à faire sur les différentes expérimentations en termes d'intensification des usages, c'est que c'est à la fois un processus de gestion différent, souvent aussi des innovations en termes de gestion, que ce soit sur des outils, évidemment avec du numérique au milieu, mais aussi souvent sur du juridique. On a des enjeux financiers qui sont pas forcément évidents à traiter, non pas qu'ils soient énormes, mais ils sont complexes. Et souvent, pour arriver à mêler tout ça et à faire s'entendre différemment des acteurs existants, il faut un nouvel acteur dans le système. Et donc, l'enjeu, en effet, de l'intensification de l'existant, c'est pas de l'innovation techno, c'est plutôt de l'innovation organisationnelle qui est éventuellement à une extension techno sur tel ou tel point, la serrure électronique, l'identification par badge, etc., etc. Mais c'est de l'innovation organisationnelle avec souvent de nouveaux acteurs avec de nouveaux modèles.
Ouais, peut-être des nouveaux business models, parce que tu vois, pour terminer sur Zenpark, ce qui est intéressant, c'est qu'ils recréent de la valeur pour des propriétaires de parking qui vont peut-être avoir des nouvelles ressources qu'ils n'avaient pas forcément imaginées, parce qu'ils vont avoir de nouveaux utilisateurs de leur espace, quoi.
Alors, oui, et typiquement l'exemple du parking, et non. C'est-à-dire qu'en fait, on est confronté à une perte d'usage du stationnement. Comme tu le disais, les voitures sont garées 95-96% du temps. C'est-à-dire que si on passe à 90% du temps, donc qu'on partage nos voitures un peu plus, ou qu'on est moins équipé, c'est-à-dire on n'a pas deux voitures dans le ménage, on n'en a qu'une, elle est plus utilisée, etc., etc., une très légère baisse du taux d'équipement fait chuter massivement l'usage du stationnement, le besoin de stationnement. Par ailleurs, on a une inflation complète, c'est-à-dire on a entre 6 et 8 places de stationnement par voiture, parce qu'il te faut une voiture chez toi, mais au supermarché, à l'école, au bureau, etc., etc. À partir du moment où tu commences à prendre le vélo, baisse des besoins. Moi, je travaillais avec un chercheur, Donald Shoup, de Los Angeles, UCLA, sur cette question de l'économie du stationnement. En fait, on n'est qu'au début des choses. On va avoir un effondrement de l'usage. On peut que postuler cet effondrement de l'usage. Parce que très clairement, le taux de détention des véhicules a vocation à baisser, notamment s'il y a une bascule vers l'électrique.
Surtout, tout simplement, il y a aussi un terme de difficulté d'approvisionnement du pétrole, quoi. Enfin, même le PDG de Total, book sur la fin de 2020.
Mais ce sera la même chose pour la voiture électrique.
Oui.
Au-delà du type de motorisation, etc., on a tous intérêt à pas immobiliser des milliers d'euros dans un véhicule pour ne pas l'utiliser. Enfin, on est sur un truc qui fonctionne pas. De toute manière, on n'a plus la place. Donc, ça règle le problème. Aujourd'hui, un bailleur social, le plus gros bailleur social parisien, a plus de 10 000 places de stationnement vides. On a ces dernières années à Paris une baisse significative, très significative, du taux d'équipement en termes de véhicules, des ménages. Ouais. Donc on a une baisse de l'usage de la voiture et du stationnement associé, ce qui fait qu'aujourd'hui on est en train de recycler des parkings pour en faire autre chose. Donc ce que je veux dire, c'est que Là où ça nous informe, ces logiques d'intensification des usages, ça nous informe aussi du comment faire la ville neuve demain. Et moi, ce que j'en tire, c'est deux choses. C'est un, à partir du moment où on crée du stationnement, il doit pouvoir être intensifiable d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire mutualisable avec d'autres, modèle Zen Park, ou transformé en autre chose. Hein, c'est pas évident de transformer en autre chose une dalle de mettons 40 places de stationnement sur deux niveaux en sous-sol sous une copropriété.
Ouais, hein. Mais par contre, c'est encore plus simple si c'est fait évidemment dès la conception. Je pense par exemple un centre de convention à Boston où dès le début, ils l'ont pensé de façon modulaire et c'est à la fois potentiellement un parking, un espace d'expo, un cinéma. Enfin, ils ont pensé plein d'usages et en fonction des besoins, le bâtiment s'adapte.
C'est exactement ça, c'est-à-dire aujourd'hui, le travail qu'on fait sur l'existant pour l'intensifier, Zen Park ou autre, ça doit nous informer de comment on doit faire du neuf, et notamment dans cette perspective, c'est on ne sait pas quand on va pouvoir se passer de la voiture, mais on sait que dans la durée de vie du bâtiment qu'on construit, ça arrivera. Donc il doit pouvoir changer de vie et ou être démontable.
Ouais, bien sûr.
Voilà. D'où l'intérêt à ne pas enterrer, tout ça, parce que le réemploi d'une infrastructure enterrée, c'est quand même plus complexe qu'une infrastructure à l'extérieur. D'où l'intérêt aussi d'avoir plutôt de grosses unités stationnement que des petits bouts de parking à droite et à gauche dont on aura du mal à changer la vie demain. Et d'où l'intérêt aussi à garder une forme d'organisation juridique, voire même une propriété collective de ce stationnement-là. Donc ça nous informe, l'exemple que tu nous donnes, à la fois sur la façon de faire de travailler sur l'existant, mais aussi sur le neuf. Donc ça c'est intéressant, et c'est finalement la boucle d'après. Comment on transforme l'existant plutôt que de le démolir, hein, pour éviter les émissions de déchets, etc. Mais aussi comment on fait du neuf qui demain sera se transformer. Comment je construis des bureaux aujourd'hui qui pourront être des logements demain, des rez-de-chaussée de stationnement par exemple qui pourront être du commerce demain, etc., etc. Ça impose énormément de choses. Ça impose surtout de concevoir les choses très différemment.
Ouais, et puis surtout de faciliter l'échange d'informations pour optimiser les ressources à disposition. La coopération entre différents acteurs, parce que tout ça, ça demande beaucoup d'échanges faciles, etc. Et aujourd'hui, ça se met, c'est pas forcément les réflexes des gens, quoi.
Alors, c'est pas généralisé. Pour autant, ça existe. Hein. Ça existe. Il y a plein d'exemples. On a, par exemple, sur les logiques de réemploi. Alors, on déconstruit, et c'est plus que légitime, et c'est nécessaire de déconstruire à certains endroits. Alors, souvent, c'est aussi le témoignage du fait qu'on a mal construit il y a 10, 15, 20 ans. Hein. Mais parfois, on est en bout de cycle. Et moi, je dis qu'un bâtiment, il doit avoir 7 vies, comme un chat. Mais pour autant, faut penser au fait qu'il n'en aura pas 8. Donc, il aura aussi une fin de vie. Donc, on doit pouvoir bien déconstruire, mais aussi réemployer des matériaux, plutôt que de recycler la matière, de réemployer les matériaux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça induit prendre des portes intérieures, par exemple, dans un bâtiment qui va être déconstruit, pour les mettre dans un autre bâtiment qui est neuf, à 500 mètres de là, ça induit une chaîne, une organisation des process qui est complètement différente de ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on va acheter une porte neuve qui est faite en Chine, qui arrive en conteneur, qui est stockée en périphérie de la ville et qui va rentrer dans la ville au moment où on va la mettre dans le bâtiment. Elle est normalisée, etc., il n'y a pas de problème. Là, il va falloir démonter une porte, la nettoyer. Elle n'est pas normalisée, il va falloir la coter de façon à la faire intégrer sur l'autre process qui est le process de conception du neuf. Il va falloir stocker dans la ville, parce que ça n'a aucun sens de le mettre, de prendre cette porte-là et de la sortir de la ville pour ensuite la ramener. Donc, il va falloir donner un espace, redonner un espace à cette matérialité de la fabrique de la ville.
Ouais, on parle parfois même de métabolisme urbain.
Ah ouais, c'est tout à fait. Enfin, ça fait partie complètement de ces réflexions-là. Et ce qui est super intéressant, c'est que le promoteur qui achète cette porte pour son bâtiment neuf, il va l'acheter à un autre promoteur qui est en train de déconstruire un bâtiment. Et donc, il va être le client de son concurrent. Et donc, on va retrouver ces logiques de coopétition, de collaboration et compétition, avec des rôles aussi différents, à la fois pour le privé qui, là, vont pouvoir s'entendre, mais pour le public qui va rendre ça possible en créant des espaces dédiés à ça, en créant des formes de réglementation qui vont permettre d'eux, etc., etc.
Et donc ça, on était plus sur transformer existant. Et après, tu évoques aussi un troisième passage sur recycler les espaces.
Ouais.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce troisième principe ?
C'est que déjà on a beaucoup alors que mettre plus d'usage dans la même surface de ville, c'est ce qu'on appelle la densification. Hein. Mais pour autant, on a des villes qui sont sous-denses et énormément d'espaces qui sont sous-exploités. Hein. Et je suis pas du tout en train de parler des espaces verts parce que pour moi, la densification bâtie, elle va de pair avec une densification de nature. Et c'est pas trois pots de géranium accrochés à une façade. C'est vraiment, je parle pas d'espace vert pour le coup, je parle de nature. Ouais. Donc avec une profondeur de sol, une profondeur de
pour absorber l'eau, créer voilà. La biodiversité.
Et puis avoir ce rapport aussi à la nature dont on a besoin, dont nos enfants ont besoin, voilà, dont on a envie.
Dont on a été trop coupé aussi d'un point de vue générationnel.
Et puis qu'on va chercher vainement dans la périphérie. Qu'on espère avoir parce que de l'autre côté de notre haie de Troène, il y a un champ et donc il y a le monde agricole, etc. Jusqu'au jour où on s'aperçoit qu'en fait ils sont en train de déverser des tonnes de saloperies. Passons. Mais donc on a besoin de ça. C'est une nécessité. Il faut redonner envie aux gens de vivre dans la centralité. Donc on a besoin de cette nature et d'une vraie nature, d'une nature différente. Une fois que j'ai dit ça, on a beaucoup d'espaces qui peuvent être mobilisés dans les espaces urbains aujourd'hui. On a énormément de délaissés, on crée du délaissé avec l'aménagement, on a énormément de friches, et il n'y a pas que des grandes friches industrielles. Et puis, il y a plein d'espaces sur lesquels on peut densifier, c'est-à-dire avoir un processus, non pas de destruction et de construction massive, non, un processus lent, attentif au contexte, qui permet de rajouter des usages à un moment dans l'espace urbain. C'est insérer une maison entre deux maisons existantes ou en faire une au fond du jardin qui sert plus à grand chose parce que ça fait quelques années que les enfants qui ont 18 et 22 ans ne jouent plus sur la glissoire en plastique.
Oui, et puis tous ces personnes âgées qui se retrouvent dans des maisons immenses parce qu'elles se retrouvent seules malheureusement.
Alors là, faut qu'on crée des vrais cycles hein, de vie puisqu'on a besoin de maisons. Le pire endroit hein, pour vieillir, c'est en dehors de la ville. Non, parce qu'être dans la ville, ça veut dire avoir un logement qui peut être adapté en termes fonctionnels, la proximité des services, et notamment médicaux, mais pas que, hein, l'ensemble des commerces, etc.
Les transports.
Et surtout la proximité de la vie hein, et de la sollicitation qu'on a sur une vie quotidienne, sur la fréquentation des commerces, etc., qui est rendue possible parce que on a un ascenseur, parce que la boulangerie est à 50 mètres, etc., etc. Quand on est coincé dans un pavillon pas prévu pour ça, qu'il faut passer la tondeuse et qu'il faut prendre la voiture. Évidemment, tout ça, c'est des liens. Et tout ça est documenté et mesuré et on vieillit plus vite en dehors de la ville. Et moins bien. Donc là, on a des chaînes résidentielles. Et puis, la ville, c'est pas que ça. C'est aussi des espaces d'activité qui sont, par contre, des espèces d'immenses délaissés intellectuels sur lesquels, parce que le développement économique prime, etc., etc., on a tout fait sauf réfléchir en termes d'urbanisme. Et on a une sous-densité absolument massive dans les zones d'activité aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut trouver beaucoup d'espaces permettant à d'autres entreprises de s'installer, permettant de densifier ces espaces-là, permettant d'atteindre les masses critiques pour avoir un restaurant inter-entreprise, un vrai arrêt de bus avec un cadencement, etc., etc., etc. Donc là, il y a des champs qui sont extrêmement importants à explorer. Sous réserve d'être prêt à se coltiner de la complexité, du travail avec les différents acteurs, de remettre en cause éventuellement les chaînes de valeur aussi, l'organisation des acteurs entre eux, et puis de mettre un frein très net à la ville facile. Hein, voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est globalement, c'est des pailles jetables. Hein, et on voit bien qu'à un moment, il faut des cadres réglementaires pour arrêter les absurdités.
Ouais, et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, je lisais par exemple les rapports de France Stratégie, ils l'évoquent très clairement, enfin, c'est une des denrées, entre guillemets, qui est de plus en plus utilisée, en fait, qui est liée à la croissance économique, et c'est ce fameux étalement urbain, ils veulent vraiment s'en sortir, mais effectivement, il n'y a pas de conséquences en termes de législation, en tout cas à ce jour.
Alors, si, ça fait 20 ans qu'on a des législations qui s'empilent.
Ok.
Ah oui, très clairement.
La loi solidarité, tout ce que je t'ai dit, c'est dans la loi SRU qui date de 2000.
Mais alors, je reformule la question, excuse-moi. Mais il n'y a pas de conséquences dans les comportements des acteurs.
Il n'y a pas d'effet. Voilà. Ouais, clairement. Alors, en fait, il y en a un. Il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits, mais absolument pas suffisamment. Et on est, en fait, on est à la fois sur une logique aujourd'hui dans la réglementation, et je pense que ça va évoluer hein, dans les mois qui viennent, hein, dans les semaines qui viennent, puisqu'il y a des discussions en cours. On est plutôt sur une logique de prohibition, c'est-à-dire on interdit sans mettre en face les alternatives, et plutôt sur une logique de curseur, c'est-à-dire que voilà, on cherche à réduire. Le problème, c'est que tout ce qu'on s'est dit, tout ça est systémique. Et donc, si on ne change pas la façon de faire, finalement, le processus au cœur de la fabrique urbaine, on n'arrive pas à faire mieux. Il faut faire différemment. C'est pas juste une réduction de consommation qu'il nous faut. C'est une autre façon de faire la ville. Et c'est une autre organisation des acteurs. C'est une autre économie. C'est d'autres métiers, etc. Et c'est le métier qu'on est un certain nombre à exercer d'ores et déjà.
Et ça me fait penser également que... Je te rejoins complètement, et puis c'est surtout, tu vois, il y a parfois des pressions démesurées qui sont mises sur certains acteurs. Par exemple, je pense au maire, ouais. Où en fait un espace naturel ne va rien lui apporter en termes d'impôts fonciers, locaux, etc. Mais quand il va avoir une zone d'activité, une entreprise ou même des nouveaux habitants, forcément c'est plus intéressant. Donc finalement l'argument nature, il passe à la trappe à chaque fois, et c'est pour ça qu'on en vient à ce qu'on évoque aujourd'hui, quoi.
Alors, c'est même, enfin, je veux dire, souvent la réalité concrète de l'étalement urbain, c'est pas un choix qui paraît cornélien comme ça, ou une forme d'arbitrage entre un idéalisme et du réalisme. Non, c'est pas ça du tout. Hein. Le pire, c'est que c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on a plutôt un ancien champ qui n'est plus exploité, d'un agriculteur qui part à la retraite. On a une friche qui commence à partir un peu, une friche agricole. L'agriculteur part à la retraite, il vend son terrain pour finalement pas cher, puis ça fait longtemps qu'on avait dit qu'on ferait un lotissement ou une zone d'activité, ce qui permet de dégager aussi le garage automobile qui est juste à côté de la place de la mairie, qui va pouvoir se développer dans cette zone d'activité-là, de terrain agricole qui sert plus vraiment. Et en plus, on va dégager cet îlot de centre-ville qui va nous permettre de faire les 4 logements sociaux dont on a besoin, notamment pour accueillir des familles qui vont permettre de conserver la dernière classe de l'école.
Oui,
tiens, on est sur un cycle qui est éminemment vertueux.
Oui, tout à fait.
Éminemment vertueux. Sauf que dans le système après global, on s'aperçoit que, quitte à ce que le garage soit à côté, il y aura aussi la pharmacie, et puis il y aura l'expert comptable, et puis quitte à faire ça, on va avoir en plus le lotissement, et puis on a ouvert un nouveau lotissement, donc on a pu faire une deuxième classe, sauf que c'est tout en accession. Donc on a des familles qui vieillissent, la deuxième classe on risque de la fermer, on va faire un nouveau lotissement, etc., etc., etc. Et puis on se retrouve avec des commerces qui sont vides au centre-bourg, du logement qui est quand même vieillissant, etc., 15% de vacances, et on a des cycles comme ça. Donc c'est pas, les choix sont pas évidents, et puis les alternatives sont loin d'être évidentes non plus. Et tout ça est très compliqué.
Ouais, et puis c'est tellement difficile d'impliquer tous les acteurs de la chaîne de valeur, et puis de les faire penser ensemble, tout ça, qu'on arrive à des difficultés comme ça. Et justement, tu as évoqué rapidement Lille tout à l'heure, mais il y a d'autres exemples de villes, de quartiers qui te semblent vraiment aller dans le bon sens que tu aimerais évoquer aujourd'hui.
Alors, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui vont dans le bon sens. Mais vraiment, ma question, c'est comment on passe du démonstrateur à la généralisation. C'est le passage à l'échelle qui est... voilà, ça veut dire qu'on peut apprendre à tous les niveaux. Sur l'intensification des usages, tu avais des exemples, mais il y en a pas mal, il y en a de plus en plus, et on s'aperçoit qu'on a un potentiel phénoménal dans les structures bâties existantes, hein, tous ces locaux vides. Donc aujourd'hui, là je te parle, mon bureau est vide, il pourrait servir à quelqu'un d'autre, puis je suis sur le terrain 2-3 jours par semaine, donc voilà, je suis prof à la fac, une fac c'est vide la plupart du temps. C'est un bâtiment qu'on construit pour qu'il soit vide. Et puis de temps en temps, il est occupé. Mais c'est de façon assez anecdotique. Si on prend le temps de l'année, les bâtiments publics, il y a un potentiel phénoménal. On a des communes dans lesquelles non seulement y compris des métropoles, c'est le cas à Montréal par exemple, mais aussi des communes en France sur lesquelles la cour des écoles est l'espace de jeu du quartier, donc il est ouvert en dehors des heures d'ouverture de l'école, mais la salle de classe est aussi une salle permettant aux associations de se réunir. Donc l'école est le point pivot du quartier, à la fois en espace de jeu, mais aussi en espace communautaire, en maison associative, etc. Exemple tout bête, hein, mais ça veut dire qu'on multiplie là les potentiels pour être ensemble, pour mettre en place des projets vertueux, etc. Sur les réhabilitations, on a énormément d'exemples. Il y a des trucs qui sont en train vraiment d'émerger sur la question de bâtiments évolutifs, hein, qui ont la capacité à évoluer dans le temps. Soit au fil de l'eau, en poussant les cloisons, etc., soit en tout cas en ayant une structure pérenne qui, tous les 20 ans, mettons, va pouvoir changer complètement d'usage, avec des phases de travaux importantes. On est encore confronté à des réflexes professionnels, des habitudes, et le thème, le mantra, c'est « réhabiliter, c'est plus cher que le neuf ». Ben non, ça dépend. Ça dépend, il faut qu'on massifie, et puis plus cher, ça dépend ce qu'on met dans l'équation. Quand on met un vrai prix aux déchets, quand on met un vrai prix au gaz à effet de serre, c'est plus du tout la même équation, y compris économique. Réhabiliter, ça va parfois plus vite, c'est parfois plus acceptable pour une population, pour des riverains dans des secteurs denses, etc. C'est moins nuisant, c'est évidemment moins polluant. Tout ça, faut en sortir. En termes de réhabilitation de friches, il y a beaucoup de travail qui est fait en ce moment. Aujourd'hui, enfin que ce soit sur la technique, les enjeux de dépollution, on a le réseau des friches. À Lyon, on a beaucoup d'acteurs, notamment les établissements publics fonciers qui aujourd'hui travaillent là-dessus. Comment on remet finalement sur un marché des fonciers qui sont devenus obsolètes, qui sont éventuellement pollués, bâtis, etc., etc. Donc oui, il y a beaucoup de choses très bien. Pour moi, il n'y a pas de territoire qui est plus exemplaire qu'un autre. Par contre, il y a des projets, il y a des pionniers, hein, il y a des expérimentations qui ont lieu. Je regarde aussi pas mal à l'étranger. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se font, c'est certain.
Oui, tout à fait. Et ça me fait penser, quand tu évoquais tout à l'heure les bâtiments, je vois par exemple Vinci qui a développé un système de bâtiments à l'intérieur complètement modulaire. Donc tu peux passer d'un appartement, d'un studio, à un appartement pour 4 personnes, où ça peut même se transformer en bureau, etc., etc.
Oui, tout à fait.
Parce que tout est vraiment cloisonné, modulaire, et c'est hyper intelligent, je trouve.
Alors il y a beaucoup de, donc moi j'ai pas d'avis particulier hein, sur ce cadre-là. En tout cas il y a beaucoup, mais pareil, on est toujours plutôt sur le cadre du proto ou du démonstrateur, etc., etc., qui pose aussi toujours des questions assez fondamentales en termes non pas de coûts mais d'organisation de l'économie globale. C'est qu'aujourd'hui l'immobilier en France, c'est passe la patate à ton voisin. Acquisition du foncier par un opérateur foncier, investissement de la collectivité, un aménageur public en général, privé, qui va faire l'aménagement, les espaces publics, vendre le foncier à un promoteur qui lui-même va faire appel à une entreprise de construction qui elle-même va vendre ensuite les appartements, enfin où le promoteur va. Et donc chacun se refile le truc, etc. Et donc à la fin on se retrouve avec un bâtiment qui est pas forcément qui est adapté à son premier usage, mais pas forcément au deuxième. Et d'où la question, qui va prendre en charge les surcoûts du deuxième usage? Qui on met en face? Parce qu'on a des surcoûts. Et il faut les assumer. En tout cas, à l'investissement, il y a un surcoût. Alors, sur le temps long de la vie du bâtiment, le fait de pas être obligé de le raser au bout de 30 ans, et éventuellement lui redonner une vie pour 30 ans encore, ben, ça a une valeur. Sauf que dans la chaîne de commandement, on n'a pas d'acteur qui est intéressé à cette valeur-là. Donc on a soit le réglementaire qui peut revenir là-dessus, soit une réorganisation de la chaîne d'acteurs.
Excellent. Et j'aurais voulu évoquer aussi avec toi, on est donc en mars 2020 pour ceux qui nous écoutent dans longtemps, on est en plein début de coronavirus, on est au stade 2 encore, et on parle de plus en plus, et à raison, de résilience et surtout de manque de résilience aujourd'hui. Et je pense que c'est un sujet qui s'applique aussi très bien à la ville. On sait que la plupart des villes ont une résilience alimentaire de 3 jours. Est-ce que... je pense que la réponse est oui, mais en quoi l'urbanisme circulaire peut aussi être un vrai levier pour améliorer la résilience des villes?
Alors... Moi, je mets dans... Alors, quand on parle de résilience urbaine, souvent, on est à la capacité de retour à la normale après une crise. et la gestion de crise. Sauf que là, on s'aperçoit que l'enjeu, il n'est pas tant là-dessus qu'une capacité d'adaptation continue qui permet à la fois de réagir à la crise et de revenir à la normale, mais d'adapter en continu. Alors évidemment, au changement climatique, au choc climatique, au changement global, au choc climatique à certains moments, mais tu parlais de virus ou autre, on a des problématiques type inondation qui sont vraiment importantes, mais aussi recul du trait de côte, par exemple. C'est un sujet qu'on a du mal à traiter.
Tu veux la disparition du sable
Non, c'est l'avancée de la mer, qui est un vrai sujet dans certaines communes françaises, qui est déjà un sujet d'actualité. On a la première déconstruction qui a lieu à Soulac. La mer avance, et à un moment... Ça ne sert à rien d'essayer de l'arrêter. Et elle avance de plus en plus vite dans certains territoires, notamment liés aux impacts du changement climatique. Donc il va falloir que on abandonne un certain nombre de secteurs. Bon, il se trouve que c'est des secteurs en littoral, avec vue sur mer, etc. C'est pas là où on a les moins fortes valeurs en termes immobiliers. Donc c'est un sujet qui est pas simple, mais qui est en train d'être réfléchi, qui est en train d'être traité, etc. Ça fait partie de la résilience. Moi, je mets dans la résilience aussi cette capacité globale de la ville à s'adapter et se réadapter. Et on voit bien, à partir du moment où on a un bâtiment qui peut éventuellement porter, ne serait-ce que sur sa dalle, son socle, donc son rez-de-chaussée, des fonctions différentes, il va pouvoir s'adapter, par exemple, à un changement du petit commerce. Le fait que le petit commerce de distribution a peu d'avenir. Mais par contre, il va peut-être se transformer en artisanat, peut-être en espace de travail tertiaire, peut-être en espace de parking de vélo, peut-être en atelier collectif. Mais c'est pas le même bâtiment qui fait tout ça. Ou en tout cas, faut avoir bien pensé son rez-de-chaussée, faut avoir bien pensé son organisation juridique, son organisation financière, etc., etc. Donc il y a ça. On a des changements démographiques en cours qui sont extrêmement importants, dont on parle absolument pas. Enfin, l'impact du vieillissement de la population aujourd'hui en France sur les usages urbains, sur la spatialisation des populations, il est extrêmement important.
Oui, et puis en plus, les tendances démographiques mettent une génération pour être visible, quoi.
Alors, ça dépend, mais... on met une génération pour les voir, mais voilà, on connaît la population. Je veux dire,
c'est juste qu'on les anticipe pas, quoi.
On les anticipe pas. Les femmes qui feront les bébés de 2050 sont nées. Donc, autant on ne sait pas quand sera la bascule entre 2050 et 2100, mais voilà. Et quand on est en train de parler de vieillissement, il se trouve que c'est des gens qui, par nature, sont déjà nés. C'est toi, c'est moi, etc. Ça a des enjeux spatiaux phénoménaux. On va avoir des territoires qui connaissent déjà une baisse de population, qui connaissent un vieillissement de façon généralisée, mais pas que, il y a des concentrations. Et donc, ça veut dire pas le même usage des logements, pas les mêmes besoins en termes de services publics, de services de santé, pas les mêmes typologies d'espaces publics, des enjeux de proximité, des enjeux de services, des enjeux de présence de gens actifs pour faire les choses, et aussi de décroissance urbaine. Et c'est un sujet qu'on ne sait pas aborder en France, qui est abordé au Japon, qui est abordé en Allemagne, etc., etc.
Quand tu parles de décroissance urbaine, c'est quoi exactement?
Une baisse de population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est toujours sur des politiques qu'on appelle les politiques de revitalisation. Souvent, on parle
d'outre-mer. Notamment pour les villes moyennes en France, qui sont un peu abandonnées,
Alors, c'est ce que je... Sous-tendu à ça, c'est un retour à la normale. C'est-à-dire, on serait dans une crise. Mais on n'est pas dans une crise. On est dans une tendance. Je crois que ça fait... on a des communes qui, depuis 20 ans, sont en baisse de population tous les ans. Et des communes importantes. La revitalisation, le retour en arrière, ça peut pas vouloir dire la réouverture des boucheries chevalines dans les centres-bourgs. Tu vois? Donc il va falloir inventer un nouveau modèle, y compris ce modèle de développement, pour des territoires en décroissance de population. Et or aujourd'hui, on ne sait pas penser ce truc-là en France. C'est-à-dire que un maire qui réussit, c'est un maire qui fait croître sa commune.
Bien sûr.
Mais un maire, il est jugé pour ça, etc. Enfin, collectivement, on pense à ça. Tu parlais d'impôts, mais aussi les transferts fiscaux entre l'État et les collectivités locales sont liés à des effets de seuil. Par habitant, il y a plus de transferts quand la commune est plus grosse. Il y a une prime à la croissance là-dessus. On veut garder les écoles ouvertes, on veut garder la poste, etc., etc. Il faut bien qu'on pense aussi le processus inverse. Et ça fait partie de la résilience.
Et ça me fait penser à une initiative du groupe SOS qui a lancé, je crois que c'était pour 1000 communes, des espèces de boutiques multiservices. Mmh. Ça correspond un petit peu à ce que tu évoques.
En tout cas, ça correspond au fait d'avoir des usages, de penser, d'avoir une entrée dans la ville par les usages. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire on va faire des bâtiments et de penser à d'autres organisations. Moi, j'ai un maire. On buvait un café dans le bistrot après une réunion en mairie dans une commune en périphérie d'une grande métropole de l'Ouest, peu importe laquelle. Donc une commune plutôt active et on boit un café après la réunion. Il me dit ben tu vois, ça fait 15 ans que je me bats pour garder la poste. Et moi, c'est le combat, c'est mon troisième mandat, c'est mon combat, garder la poste. Je suis allé au siège régional X fois, à chaque fois, ils ont fermé, j'ai négocié, etc. La dernière fois, on avait deux après-midi d'ouverture, puis au début janvier, ils ont pas rouvert, quoi. Donc là, j'ai même pas pu m'engueuler avec quelqu'un, j'ai vu personne. Ils ont juste fermé, quoi. Et ils ont mis un point poste dans le bistrot. On n'a jamais eu un service de cette qualité-là. Et lui, dans le bistrot, ça lui ramène des clients.
Ouais.
On a des horaires d'ouverture phénoménales. Si j'avais su.
Ouais.
Mais ça veut dire qu'on peut penser le même service. Alors, au-delà de la question de la poste et du bâtiment, etc. Mais comment on part de l'usage et on se dit comment on amène ça, quoi. Et on voit bien que dans des lieux qui peuvent porter plein de choses, qui bien souvent ont d'autres natures, c'est-à-dire par exemple ça peut être des lieux publics ou une propriété publique avec des acteurs privés qui sont dedans, peut-être plusieurs acteurs, et tu vois bien qu'il faut se repasser les clés, il faut avoir des horaires, gérer du stock des uns des autres, l'entrée du public, de la réglementation, c'est un autre mode d'organisation.
Ouais, mais tout ça en repartant à chaque fois des usages, des besoins essentiels des personnes, donc oui, on se rejoint complètement.
Oui, bien sûr.
Juste pour terminer, pour ouvrir un petit peu sur d'autres sujets, est-ce que t'as des conseils, des appels à lancer à tes confrères ou même à d'autres professionnels, puisque bon, il est bien évidemment question de faire travailler tout le monde sur la chaîne de valeur.
Oui, clairement. Enfin, moi, c'est ce que à la fois je prône au travers d'un bouquin de conférences, mais surtout en accompagnant ces acteurs-là, hein, que ce soit par la formation des pros initiales ou par le conseil aux organisations, c'est que c'est plus compliqué de faire la ville sur la ville. C'est clairement plus compliqué. C'est pas un retour à l'artisanat, c'est d'autres modes d'organisation. C'est pas la même relation entre les métiers, c'est pas le même temps, etc. Et globalement, on change de matière grise, c'est-à-dire on fait moins de béton et plus d'intelligence. Et ça, c'est une formidable opportunité, en fait. C'est une formidable opportunité parce que pour ceux qui font ça, non pas de temps en temps, non pas le week-end ou quand il faut faire des rapports RSE ou faire de la communication, mais qui font ça au quotidien, c'est extrêmement valorisant. Et il y a des vraies opportunités à saisir. C'est à la fois des métiers qui sont plus intéressants, plus valorisants, sur lesquels il y a plus de valeur ajoutée. Et donc, il y a une vraie opportunité. Moi, c'est ce que j'ai vécu il y a 5 ans en faisant le choix pas très clair de ne plus travailler sur l'étalement urbain, de refuser des projets. Ben, ça veut dire que je me suis concentré sur d'autres projets. Et voilà. Et professionnellement, c'est plus intéressant à tous les niveaux. On a la capacité et le temps de travailler pour une fois. Parce qu'on est sur des processus moins industriels et qui nécessairement donnent plus de place à l'intelligence et donc aux professionnels. Donc il y a une vraie opportunité à basculer. Par contre, c'est des choix importants et c'est d'autres métiers.
Excellent. Est-ce que il y a des choses que tu as oubliées que tu veux absolument mentionner ou on est bon?
Il y a plein de trucs.
Mais déjà, j'invite tous ceux qui nous écoutent à au moins aller sur le site urbanismecirculaire.fr et puis, bah, évidemment, d'acheter ton livre qui est à un prix tout à fait abordable puisqu'il est à 10€. Et donc, voilà, je pense que vous verrez que c'est un livre qui est très intéressant. J'ai pas terminé le livre. Je l'avoue, mais je vais pouvoir le finir tranquillement maintenant.
Parfait.
Bon, bah, merci à toi et puis bah
c'est moi.
Bonne route et puis à bientôt.
À bientôt.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.